C'est parfait. Merci beaucoup. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimé, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon la promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Aussi bien-aimés dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Voilà, voilà. Je ne sais pas trop ce qu'éveille en vous ce texte biblique, mais pour ma part, ce n'est pas vraiment un sentiment de joie. Plutôt de peur, même. Pour moi qui suis craintive devant une simple guêpe, je ne vous explique pas comment je me sens quand je lis que le jour du Seigneur sera comme un grand brasier qui brûlera tout sur son passage. Je ne suis pas très tranquille, à vrai dire. D'autant que pour ne rien gâcher de son plaisir, l'auteur du texte nous invite à nous conduire de manière sainte et pieuse, à être sans tache et sans défaut. Si c'est ça, pour moi personnellement, je crois que je peux directement me jeter dans l'immense feu promis. Je ne suis ni sans tache, ni sans défaut, et ma conduite est parfois loin de la sainteté et de la piété à laquelle il est fait référence. En résumé, je suis mal barrée. Et vous, si vous deviez faire un petit bilan mental en quelques secondes, là, comment vous sentiriez-vous face à ce texte ? Ah, ça me rassure. Heureusement, les choses ne sont pas si simples. Et ouf, parce que ça nous sauve un peu de la chaleur qui s'annonçait. Car même si le retour de notre Seigneur est une promesse, et que des manifestations de feu et autres sont promises, nous ne devons pas craindre ce retour. Vous souvenez-vous de ce verset que nous avons lu ? Le Seigneur ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Ce changement radical dont il est question, c'est la métanoïa en grec, à savoir la conversion. Littéralement, un changement de vue, un renversement de la pensée. Et puis encore plus précisément, dans le Nouveau Testament, la métanoïa, c'est un peu comme un mouvement au-delà de nous, au-delà de notre intellect, de notre raison rationnelle, qui se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même, en lui-même. Aujourd'hui, quand nous parlons de conversion, et j'ose le dire, surtout dans les milieux évangéliques, on imagine une date précise où la personne remet sa vie à Dieu, voire une manifestation extraordinaire de Dieu. Parfois, c'est le cas. C'est effectivement un changement, un bouleversement radical. Mais d'autres fois, le processus de changement est plus doux, plus lent, comme une évolution progressive. Le résultat est le même. La personne se décentre d'elle-même pour accepter pleinement et entièrement Dieu. C'est à ce moment-là que deux perspectives se rejoignent. Dieu sauve la personne pour ne pas qu'elle se perde, et la personne accepte d'être sauvée. C'est de cette mutuelle acceptation que semble devoir découler la vie sainte, pieuse, irréprochable. Vaste tâche qui, disons-le honnêtement, est du domaine de l'impossible. Il me semble toutefois qu'une précieuse indication nous est donnée. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. C'est l'espérance d'un monde nouveau et la soif de justice qui nous animent, car telle est la promesse de notre Seigneur. Plutôt que d'attendre d'entrer dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, par-delà la vie vertueuse que nous voudrions mener, c'est à mon sens cette soif de justice que nous devons chercher à atteindre. La justice. Alors en France, nous avons la chance d'avoir un système judiciaire qui condamne les coupables et qui reconnaît les innocents. On peut parler de justice climatique. Dans les décennies à venir, les flux migratoires liés au réchauffement climatique vont s'accélérer. Comment accueillerons-nous ces migrants qui fuiront ce qui sera la conséquence unique de l'homme ? La justice sociale. En janvier 2020, la Confédération Oxfam a indiqué que 2 000 milliardaires de notre planète détenaient 2/3 des richesses de cette même planète. Ahurissant, non ? Révoltant, peut-être, quand on sait que des populations des pays les moins avancés n'ont pas encore un accès libre à l'eau potable, à l'électricité ou à l'éducation. Justice sociale, toujours, mais en France, en novembre 2020, 9 indicateurs sont sortis. Près de 10 millions de pauvres en France, une progression de la pauvreté de près de 50% chez les jeunes adultes, un seuil de pauvreté à 1 063 € par mois, les bénéficiaires du secours catholique, une fois les dépenses courantes réglées, comme le loyer, les factures et autres, ne vivent plus qu'avec 9 € par mois, par jour, pardon. 9% de bénéficiaires du RSA en France. Quasiment 20% des Français vivent à découvert, dont 8% prêts à basculer dans la grande précarité. Les Restos du Cœur, qui distribuent 30% de repas en plus qu'au début des années 2010, il y a 10 ans. Et on compte environ 300 000 sans-abri. Je ne parle pas de l'égalité des sexes. Pourquoi les femmes ne sont-elles toujours pas considérées comme les égales des hommes ? Pourquoi les femmes sont-elles moins rémunérées que les hommes à compétences égales ? Pourquoi les tâches ménagères reviennent toujours et encore majoritairement aux femmes ? Et puis on peut se demander pourquoi les femmes, dans beaucoup d'églises, n'ont pas encore le même statut que les hommes. Et là, chers amis, je peux vous dire que nos églises, et je dis bien nos, parce que nous y sommes pour quelque chose, ont bien des choses à revoir, à réfléchir, des discours et des actes à changer. Alors ça plombe peut-être un peu l'ambiance ce matin, tous ces chiffres, toutes ces données, mais c'est une réalité. Alors sans parler de piété, de perfection, d'irréprochabilité. Œuvrer ou lutter pour la justice est déjà le programme de toute une vie. En cela, Jésus est un modèle. Il n'a pas reculé devant les accusateurs de la femme adultère. Il n'a pas rejeté les enfants, les pauvres, les malades. Il a parfois même été en colère. Peut-être devrions-nous l'être de temps à autre. Cette volonté de justice doit nous conduire à la paix. Avez-vous déjà ressenti de la honte devant une situation injuste que vous n'avez pas réussi à dénoncer ? Moi, oui. À l'inverse, avez-vous déjà éprouvé de la fierté et de la satisfaction d'avoir combattu une injustice ? Dans ce cas, personnellement, je me sens en paix avec moi-même, avec mes valeurs, avec ma foi. La justice entraîne indéniablement la paix. Et je crois que notre monde, mais nous aussi, humains, hommes et femmes, avons besoin autant de justice que de paix. Le temps de l'Avent est ce temps de paix, de calme, de méditation profonde. Noël, c'est l'incarnation même de la paix et de la justice de Dieu en son Fils. Puissions-nous donc réfléchir à notre lutte pour la justice, au combat que nous voulons mener pour la paix. Témoigner en parole, c'est beau. Témoigner en acte, c'est fort. Témoigner à l'image de Jésus, tout simplement. Prions.